à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vez. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler des apparitions de Jésus aux disciples. Et la première lecture est dans le livre des Actes au chapitre 3, les versets 13 à 19. C'est un discours de Pierre après la guérison d'un infirme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez livré et que vous aviez refusé en présence de Pilate, décidé quant à lui à le relâcher. Vous avez refusé le saint et le juste et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. Le prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes les témoins. Grâce à la foi, au nom de Jésus, ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé en votre présence à tous. Cela dit, frères, c'est dans l'ignorance, je le sais, que vous avez agi, tout comme vos chefs. Dieu, lui, avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait, et c'est ce qu'il a accompli. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, afin que vos péchés soient effacés.
Et la deuxième lecture du jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 35 à 49. Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. Et il leur dit « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme sous l'effet de la joie, ils restaient encore incrédules, et comme ils s'étonnaient, il leur dit « Avez-vous ici de quoi manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit « C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis pour vous. Vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. »
Thank you. On trouve dans la Bible, surtout dans les évangiles, plus d'une dizaine de textes racontant une apparition de Jésus. Ils sont différents, bien sûr, au point de vue de la rédaction, mais ils ont beaucoup de traits communs. On pourrait presque parler d'un genre littéraire. Et c'est un genre littéraire qui a avant tout une fonction théologique. Ces récits visent à mettre en avant l'identité du crucifié ressuscité et à dire comment les croyants vont pouvoir vivre l'absence de Jésus. Mais chez Luc, le récit a une tonalité vraiment réaliste. Ainsi, il y a une insistance sur la matérialité de la présence de Jésus. Elle est mise en scène progressivement. Au verset 39, il s'agit de voir deux fois, et ensuite de regarder les mains et les pieds, et ensuite de toucher ce que Jésus montre. Et enfin, au verset 43, Jésus mange devant eux. À cette matérialisation croissante de la présence répond une progression dans la réaction des disciples. Tout d'abord, ils sont terrifiés, épouvantés, troublés. Ensuite, ils sont incrédules, étonnés. Enfin, ils sont dans une grande joie, adorant et finalement bénissant Dieu.
Ce récit suit immédiatement un autre récit d'apparition aux disciples d'Emmaüs. Mais si le parallélisme des deux textes est frappant, l'apparition, puis le repas, l'instruction à partir de l'écriture et le départ, deux éléments marquent la spécificité de ce nouveau récit. L'insistance sur la présence concrète de Jésus, puis l'envoi en mission des disciples. Il faut sans doute rappeler aussi que l'évangile de Luc et les actes des apôtres ont le même auteur. Il faut garder en mémoire le début du livre des actes qui apporte un éclairage utile à la lecture de la fin de l'évangile de Luc. Cela permet en effet de repérer le rôle que joue ce récit. Les disciples reconnaissent le Christ ressuscité. Son message est accueilli dans la joie après un long parcours évangélique semé de refus et d'incompréhension. Elle est donc la conclusion de l'évangile qui relate un parcours des onze et de leurs compagnons. Dans le même temps, elle en annonce aussi la suite. Elle sert donc de charnière en quelque sorte, évoquant plusieurs événements et thèmes qui seront développés dans le livre des actes. La puissance annonce les événements de la Pentecôte et l'importance du rôle de l'Esprit dans le livre des actes. Les éléments majeurs de la prédication chrétienne sont ainsi énoncés. Et les témoins, acteurs de la mission, sont clairement identifiés. Thank you.
on peut distinguer plusieurs parties dans ce texte. Tout d'abord, c'est l'apparition concrète du ressuscité et la reconnaissance des onze. Et ce texte est dans la suite directe de l'épisode précédent. Ce sont les mêmes personnes, ils, ce sont les onze, et quelques autres compagnons, eux se trouvent dans le même lieu, à Emmaüs. Elles sont en train de parler de ce qui s'est passé juste avant, une apparition de Jésus. Et là se produit le changement, l'arrivée de Jésus. Il y a un effet littéraire qui met en valeur l'événement. Il se produit dans le récit, justement, de ce qui est discuté. Le mode de l'apparition de Jésus n'est pas décrit. On sait seulement qu'il fut présent. Et cette manière de se rendre présent et de disparaître est conforme à celle des êtres divins dans l'Ancien Testament. On trouve des récits semblables dans la Genèse ou dans le Deutéronome. Ici, cependant, Luc cherche à donner à la présence de Jésus un caractère simple, voire banal. Jésus adresse aux disciples une salutation classique.
Mais les disciples ont peur, ils ont vraiment peur. Ils sont à la fois effrayés et remplis de crainte, dit le texte. Luc met en tension deux dimensions. Juste avant, les disciples se racontaient des apparitions en pleine confession de foi. C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. Au milieu de ces échanges enthousiastes, une nouvelle apparition a lieu et la réaction des disciples est tout d'abord la peur et l'incrédulité. Ainsi, Luc place déjà ce récit d'apparition dans la dynamique de sa réception. La question de la crédibilité de l'apparition coïncide avec l'apparition elle-même. La première réaction des disciples est l'incompréhension. Ils croient voir un esprit. La parole de Jésus récuse immédiatement cette idée et dit qu'il n'y a pas à avoir peur. Cette affirmation est étayée par l'appel au sens, au voir, au toucher, et par la désignation concrète du corps, la chair, les os, les mains, les pieds.
Jésus se présente donc d'abord comme un être réel. Il parle, et les disciples l'entendent. Il est là, et ils le voient. Malgré cela, les disciples croient à la présence d'un esprit. Alors Jésus ajoute une information sur la matérialité de sa présence. On peut aussi le toucher. Il est donc présent en chair et en os. Et il s'agit bien de lui, pas d'une autre personne. L'évocation des mains et des pieds est significative. Les disciples sont partagés, incrédules de joie. Cette expression paradoxale montre que s'ils admettent la présence de Jésus, les disciples ne savent pas encore comment la comprendre et ils restent étonnés. Un nouveau jalon est alors posé dans la matérialisation de la présence de Jésus dans l'espace et dans le temps. Il demande à manger. Le repas suggère diverses dimensions. On y trouve l'idée du partage et du compagnonnage et l'évocation du repas pascal. Même ressuscité, Jésus rencontre et prend part.
Et la mention du repas comporte une référence physique à la vie. Se nourrir, c'est ce qui permet de vivre. Enfin, Jésus mange devant les yeux des onze, encore une allusion à la constatation visuelle. Ce récit s'oppose à l'apparition qui précède. À Emmaüs, Jésus explique puis mange, enfin il est reconnu. L'ordre ici est différent. Jésus est reconnu, puis il mange, enfin il explique. À la reconnaissance immédiate que mettait en place le récit d'Emmaüs, Luc oppose ici une reconnaissance expliquée, commentée. Cette mise en place progressive de la réalité de la présence du Christ, à laquelle répond une acceptation progressive des onze, est un élément clé du passage. Pour Luc, il est essentiel que la présence du ressuscité soit perceptible dans le temps et dans l'espace. Il a pris le risque de raconter la matérialisation de la résurrection, mais la position est difficile. Il lui a donc fallu l'étayer dans le texte par l'argumentation faite par Jésus ainsi que par l'acceptation progressive de la réalité de sa présence. Cette première partie du texte organise un cheminement qui va de la conception erronée de la résurrection à une compréhension juste. Ainsi, le ressuscité est-il établi dans toutes ses dimensions, présent en chair, il se place dans les nécessités, les actes et les temps de la vie quotidienne.
Dans une seconde partie, il y a les enseignements de la promesse et l'accomplissement des Écritures. Jésus est présenté comme le maître du jeu. Il est le maître de la parole. On sait que Jésus est un bon communicateur, un bon enseignant et un prédicateur convaincant. Et il guide les apôtres. Il y a donc une dimension catéchétique dans ce passage, qui transparaît par la figure du Christ enseignant. En même temps, l'identité de Jésus est affirmée. C'est en effet bien lui. Qui d'autre peut enseigner de la sorte ? Le Jésus ressuscité, être réel et pleinement incarné, reste le Jésus de la parole. Une gestion intéressante du temps est mise en place par cette parole. Jésus, parlant aux disciples, évoque un temps passé, quand j'étais encore avec vous. Curieuse affirmation à première vue, n'est-il pas également avec eux quand il énonce cette phrase ? Et on trouve dans cette déclaration paradoxale du Christ l'expression d'une des questions du récit. Comment le Christ pourra-t-il être avec après sa mort ?
En fait, la relecture du passé est déjà commencée dans le texte. Cette reprise affirme que si Jésus est encore avec eux, il est déjà présent différemment. Ainsi, le Jésus présent affirme-t-il le Christ ressuscité, et de ce fait, le Jésus ressuscité affirme la présence de Jésus. Jésus présent avec les disciples les place de manière pédagogique déjà en position d'anticiper son départ.
Et un jeu similaire se poursuit dans les versets suivants. Au verset 46, le verset 46 annonce au futur un événement passé. La passion et la résurrection annoncées par le Christ quand il apparaît aux disciples après sa mort. Et toute la dynamique du passage est signifiée dans cette réinterprétation qui va tout transformer. Le récit est ainsi mis dans une dynamique de lien passé, présent, avenir, qui confirme son rôle de charnière. La période Christ et la période après Christ sont liées l'une à l'autre et elles sont déjà projetées dans le futur.
Cette partie contient un enjeu important. C'est vous qui en êtes les témoins. Les témoins dont parle Jésus sont ceux qui vont dire et mettre en œuvre. La proclamation de Jésus devient maintenant l'affaire de ses disciples. L'instauration des disciples comme témoins est rendue possible par le parcours de reconnaissance suivi depuis le début du récit. Dans le livre des Actes, on apprendra que les disciples sont témoins de la vie de Jésus, de sa résurrection et de la mise en œuvre de la proclamation. Il ne s'agit pas de témoins passifs, mais d'un engagement à prendre. Et ceux qui entendent ce texte deviennent aussi les témoins qui doivent dire et mettre en œuvre.
Luc raconte dans ce chapitre 24 plusieurs apparitions, mettant en scène une importance croissante de témoins. Au début, il y a deux femmes, ensuite deux disciples, et après tous les disciples. Il y a donc une volonté d'élargir le témoignage vers le plus grand nombre, et cette dynamique du témoignage, déjà commencée dans le texte biblique, est donc appelée à continuer. Les deux premiers témoins, les femmes, n'ont pas été crus. Les deux suivants le racontent à d'autres, et ceux-là même vont voir Jésus et croire à sa présence. Ainsi, le récit expose l'idée que Jésus va apparaître, être rendu présent à ceux-là même qui ont entendu raconter ses apparitions. À ces témoins, Jésus a fait une promesse qui est peu claire. S'agit-il d'une expression voilée pour annoncer le don du Saint-Esprit ? Dans le livre des Actes, l'Esprit est nommé explicitement. Mais ici, Luc met son récit sous le signe de l'attente, de la promesse. Il place ainsi le lecteur dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse.
Dans ce texte, nous avons donc trois choses à retenir. La première, le réalisme du Christ ressuscité. C'est bien lui, il est bien vivant, comme avant. Il mange, il parle, tous le voient. Et Luc insiste sur l'aspect matériel de la présence du Christ. Mais cette insistance sur la matérialité vise à affirmer la présence du Christ. On ne peut pas parler de résurrection sans parler de sa présence. Il s'agit de donner du poids à l'événement, mais aussi d'affirmer que les disciples, que les témoins, ont vraiment vu le Christ ressuscité et non un zombie de passage. Ils pourront donc témoigner de cette réalité à toute l'Église. Le Christ est bien ressuscité. Il a mangé sous les yeux de ses témoins. Il a été véritablement présent au milieu d'eux.
Ce texte veut nous montrer aussi un cheminement. Il met en évidence le cheminement des disciples présents. De l'incrédulité tourmentée à la foi joyeuse. La vraie reconnaissance du Christ ne se fait qu'à l'extrême fin du passage. L'évolution des disciples leur permet de vivre la séparation autrement que comme un drame. La mort de Jésus et la séparation qui s'ensuit ne sont pas à comprendre comme une malédiction, mais comme permettant une bénédiction.
Et enfin, ce texte veut nous montrer l'accomplissement des promesses. Ce qui était annoncé sur Jésus dans l'Écriture, au sens précisé ici par Luc, de loi, prophète, psaume, s'est accompli et trouve un prolongement immédiat dans la prédication des apôtres. La mission des témoins est fondée par le Christ ressuscité, vraiment ressuscité. Dans le même temps, la puissance annoncée trouvera son accomplissement dans l'épisode de la Pentecôte. Ce récit se place à la fois dans l'accomplissement et dans l'attente de la fin de l'accomplissement. Comme l'Église se trouve placée entre la promesse réalisée de la résurrection du Christ et l'attente du royaume.
Et pour nous, aujourd'hui, comment comprendre ce texte? On ne peut pas sous-estimer l'aspect énorme de l'apparition de Jésus, l'incroyable événement de la résurrection corporelle. Ressuscité, d'accord, mais manger du poisson grillé. La question de l'historicité de Jésus n'est pas forcément la première préoccupation des paroissiens d'aujourd'hui. Mais il faut quand même prendre en compte la réticence de l'auditeur moderne par rapport à ce côté un peu bizarre, irréaliste de l'apparition de Jésus. Et en fait, c'est un gros problème pour l'Église si la résurrection n'est pas crédible. Ce qui peut susciter une difficulté de lecture du texte peut aussi le rendre plus proche. Le réalisme de la réaction des onze, leur incrédulité, leur peur, peuvent sembler compréhensibles et devenir un lieu de reconnaissance pour nous aujourd'hui.
Pourtant, nous, auditeurs d'aujourd'hui, nous ne partageons ni poisson ni pain avec Jésus. Nous ne sommes pas dans la situation de ceux que Jésus a quittés. Auditeurs, nous devons donc cheminer pour rejoindre le texte. Celui-ci cherche à donner sens à une séparation. Il nous faut percevoir le manque. On voit déjà dans le récit la progression du témoignage. Il y a une affirmation optimiste, triomphante de la résurrection. Notre monde, où nous constatons la diminution du nombre de croyants, n'est-il pas en contradiction actuellement avec ce texte?
Donc, le Jésus que nous prêchons aujourd'hui n'est pas un esprit ou une vue de l'esprit. Et il nous accompagne véritablement dans notre mission. Il est notre force. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.